Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à Gilgamesh, premier rêveur de l'humanité. Dans l'épopée de Gilgamesh, premier récit de l'humanité retraçant la quête d'immortalité du célèbre héros mésopotamien, le rêve tient une place centrale. En effet, on compte pas moins de 8 récits de rêve dans cette aventure. Ceci vient confirmer à quel point le rêve tenait une place importante dans la vie quotidienne à cette époque. Mais de quelle époque parle-t-on au juste ? Il semblerait que le récit des aventures de Gilgamesh ait été rassemblé aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ, à partir d'histoires indépendantes mettant en scène ce même héros. Il existe plusieurs versions de ce texte qui situent l'action à Uruk, cité dont Gilgamesh est le roi, dans le sud de l'actuel Irak, sur les bords de l'Euphrate. L'approche que nous allons développer durant cette émission sera essentiellement clinique, si je peux m'exprimer ainsi. Disons que nous allons explorer les différents rêves qui scandent l'épopée et les interprétations qui en sont données. C'est l'une des grandes richesses de ce texte également. L'interprétation des rêves nous est fournie, ce qui fait de nous, lecteurs, un témoin privilégié de cette technique ancestrale de l'interprétation des rêves en Mésopotamie. Alors dans le temps qui nous est imparti, et par souci de clarté, nous allons être obligés de nous contenter d'un résumé de l'histoire et des rêves qui dynamisent le récit. Je vous invite donc, bien entendu, à lire ou à relire l'épopée de Gilgamesh. De plus, nous ne reviendrons pas en détail non plus sur les éléments théoriques que nous avons abordés lors des précédentes émissions. Je vous invite pour cela à réécouter sur Radio FM+, les précédentes émissions à la rubrique « La Voix des Songes ». Comme nous venons de le voir, Gilgamesh est roi de la ville d'Uruk. Il est le fils de Lugulbanda, précédent roi, et de Ninsuna, la grande reine, également grande prêtresse d'Uruk. Cependant, il a été façonné par les dieux eux-mêmes. Et de cette illustre lignée, Gilgamesh en tire une force surhumaine. Il est décrit comme mesurant plus de 6 mètres, et surtout, un orgueil démesuré. Ce qui rend la vie des citoyens d'Uruk insupportable. Gilgamesh était surtout connu pour passer chaque nuit avec une jeune vierge, hors mariage, contrevenant à toutes les coutumes de l'époque et empêchant ces jeunes filles de se marier par la suite. Face à la tyrannie imposée par ce potentat, les habitants d'Uruk implore les dieux d'intercéder en leur faveur et d'envoyer un émissaire qui l'humiliera enfin. La déesse protectrice de la cité confectionna alors avec de l'argile un alter ego de Gilgamesh, connu sous le nom d'Enkidu, aux dimensions lui aussi surhumaines. L'intercession des dieux et l'arrivée d'Enkidu furent perçus en rêve par Gilgamesh, qui s'empressa de raconter à sa mère. Tandis que m'entouraient les étoiles célestes, un bloc venu du ciel est tombé près de moi. Tandis que m'entouraient les étoiles célestes, un bloc venu du ciel est tombé près de moi. J'ai voulu le soulever, il était trop lourd pour moi. Les habitants d'Uruk s'étaient massés pour le voir, et comme à un petit enfant, il lui baisait les pieds. Moi, je le cajolais comme une épouse. Sa mère, en tant que grande prêtresse, est également une devineresse. Et c'est pour son intuition, pour cette capacité à interpréter d'un seul coup d'œil, qu'elle est sollicitée. Voici en partie son interprétation. Ce rêve n'est rien de moins que l'expression d'un compagnon désireux de te venir en aide. Et d'ajouter plus loin, cela signifie que cet ami te sera éternellement fidèle, qu'il ne t'abandonnera jamais. Voilà ce qu'incarne ton rêve. À la suite de cette interprétation favorable, Gilgamesh lui raconte un second rêve, fait la même nuit, dont le scénario est identique. Mais au lieu que ce soit un bloc qui tombe du ciel étoilé, cette fois-ci c'est une hache qui trône dans la cité d'Uruk. Sa mère en donne également une interprétation très favorable. Bien que la hache symbolise la rivalité, l'amitié, la fraternité, l'amour l'emporteront et les futurs compagnons seront alors inséparables. Après de telles prévisions heureuses, Gilgamesh, le cœur léger, attendait son compagnon avec impatience. Nous avons, à travers le récit de ces deux rêves au scénario similaire, un premier exemple et une confirmation qu'à cette époque, l'interprétation divinatoire exprimée par un prêtre ou une prêtresse, connue pour ses qualités de devin, n'était jamais questionnée ou remise en cause. Nous sommes également en présence d'un rêve qui vient confirmer l'interprétation d'un précédent rêve, ce qui est un exemple typique de la tradition antique. En présence d'un rêve-message au langage obscur, un ou plusieurs rêves peuvent, et on pourrait même dire doivent, venir confirmer l'interprétation initiale. Ou l'infirmer, si on est prêt à accepter de s'être trompé, comme nous allons le voir par la suite. Au terme d'un combat titanesque qui met aux prises Gilgamesh et Enkidu, ils finissent par reconnaître qu'il est dans l'intérêt de tous de s'allier. Enorgueillis par la présence d'un si puissant et fidèle ami à ses côtés, Gilgamesh entreprend de voyager vers le pays des cèdres pour y terrasser le monstre qui y séjourne. Non pas par vengeance, mais afin que ses exploits le rendent immortel. Malgré les conseils d'Enkidu, de sa mère et des sages de la cité qui le prient de reconsidérer son entreprise dangereuse, Gilgamesh s'entête et finit par partir, accompagné bien entendu de son inséparable ami Enkidu. Ils parcourent tous les deux les 1500 km en 3 jours, malgré un bardage de plus de 300 kg chacun, pour arriver au pied du mont Liban où séjourne le monstre. Une fois sur place, ils partent à sa recherche. Afin de s'attirer les faveurs divines, chaque soir, Gilgamesh entreprend un rituel à l'attention de Shamash, dieu du soleil et protecteur de la dynastie royale d'Uruk. Et dans la nuit qui suit, il obtient un rêve-message. Voici ce premier rêve. Nous nous trouvions dans un ravin lorsque soudain la montagne faillit nous avaler, mais nous nous envolâmes tels deux moucherons. Enkidu s'emploie à interpréter le rêve de son ami. Il y entrevoit une destinée positive. « Mon ami, c'est un rêve heureux que tu as fait là. La montagne que tu as vue n'est autre que Umbaba, le monstre en question. Cela signifie que nous allons le vaincre, qu'il ne sera bientôt plus qu'un cadavre. Demain, Shamash nous enverra un autre signe. » Arrêtons-nous un instant sur cette interprétation qui aura d'importantes répercussions sur la suite de l'histoire. De nos jours, les rêves de vol sont toujours très fréquents et on m'en raconte régulièrement. La considération actuelle sur les rêves, dans le cadre psychothérapeutique qui nous concerne, nous éloigne de toute perspective divinatoire. En effet, de nos jours, c'est avant tout l'histoire présente et passée du sujet qui nous intéresse. Quant aux rêves de vol, j'invite toujours les personnes à réfléchir si l'action de vol, de voler ou de s'envoler correspond davantage à de la fuite ou de la sublimation. Car face aux difficultés que nous avons rencontrées ou que nous rencontrons, les rêves de vol mettent en scène ces deux voies qui s'offrent à nous. La sublimation, c'est-à-dire la réussite, ou la fuite. Dans le cas du rêve de Gilgamesh, Enkidu l'interprète de manière positive, prévoyant une issue favorable. Car à l'époque, un rêve ne pouvait avoir qu'une seule interprétation. Il n'y a pas de nuance et surtout, on ne questionne jamais. On affirme et donc, on impose. Il est toujours regrettable de constater que de telles positions existent encore de nos jours. Les nuits suivantes, Gilgamesh fera 2 autres rêves, dans le but d'obtenir la suite des présages divins avec plus de précision, ce qui correspond tout à fait aux usages de l'époque. Voici le rêve suivant. « Mon ami, je me suis vu en songe aux prises avec un taureau sauvage. Il mugissait sa fureur à la face du ciel et de la terre avec une telle puissance qu'il les faisait trembler sur leur base. J'étais prêt à céder sous ses assauts lorsqu'un homme arriva et, me donnant à boire de l'eau de son outre, fit renaître un sentiment de quiétude dans mon cœur. Enkidu y voit encore un heureux présage. Quant au second rêve, le dernier, c'est en réalité un cauchemar, selon les propos de Gilgamesh. Et c'est à ce moment-là que surgit le monstrueux seigneur des lieux. Au-delà de l'intérêt scénaristique qui fait apparaître l'immonde rival juste après le récit du cauchemar, l'absence d'interprétation d'un tel rêve est aussi révélatrice de la considération pour les rêves démoniaques à cette époque. On ne les interprète jamais. Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, il faut se prémunir de leurs effets néfastes dans le monde des vivants en accomplissant certains rituels prescrits dans les livres des songes de l'époque. Ou, comme c'est le cas pour Gilgamesh et Enkidu, terrasser le monstre dans la réalité, ce qu'ils parviennent à réaliser sans grande difficulté. De retour à Uruk, Gilgamesh et Enkidu sont accueillis en héros. Leur exploit inattendu est tel que la déesse Ishtar, en personne, se propose d'être l'épouse de Gilgamesh. Mais l'impudent, enorgueilli par ses exploits, la rabroue, l'insulte et l'humilie publiquement. Pour se venger, la déesse obtient que le taureau céleste, arme la plus puissante des dieux du panthéon mésopotamien, soit lâchée sur la cité d'Uruk. Après avoir entraîné la mort de centaines d'habitants, Gilgamesh et Enkidu parviennent à terrasser le taureau céleste, au grand désarroi des dieux qui décident de se réunir. Enkidu, en rêve, assiste à la délibération des dieux. Pour avoir tué le démon résidant sur le mont Liban, et pour avoir abattu le taureau céleste, l'un de ces deux surhommes doit mourir. Les dieux condamnent alors Enkidu. À son réveil, il s'empresse de raconter son rêve à Gilgamesh, son ami et confident, puis il tombe immédiatement malade. On est à nouveau confronté à un rêve qui n'est pas interprété. Certes, on pourrait une nouvelle fois invoquer le procédé stylistique qui renforce le côté prémonitoire du rêve, mais pas seulement. Le rêve d'Enkidu est le seul rêve théophanique de l'épopée de Gilgamesh. Pour rappel, un rêve théophanique, comme son nom l'indique, est un rêve dans lequel apparaît un ou plusieurs dieux. La croyance répandue à cette époque reconnaissait que les dieux ne parlent pas dans un langage obscur. Donc, si un dieu apparaît en rêve, c'est vraiment ce dieu qui s'est manifesté de la sorte au rêveur. Et ce que ce dieu dit ou fait dans le rêve ne saurait être sujet à une quelconque interprétation. C'est avant tout pour cette raison que le rêve d'Enkidu n'est pas interprété. Par la suite, l'état d'Enkidu s'empire malgré les tentatives de Gilgamesh d'intercéder en sa faveur auprès des dieux à travers les rêves. Si les tentatives de Gilgamesh sont mentionnées, aucun récit n'est retranscrit. En tout cas, l'action de Gilgamesh peut être comprise comme la première mention de l'utilisation des rêves à des fins médicales. Cette approche, déjà présente à l'époque en Mésopotamie, va se répandre et se développer durant toute l'Antiquité pour trouver sa quintessence dans la médecine grecque, thème que nous aborderons dans de prochaines émissions. Pour finir, Enkidu raconte un dernier cauchemar à son ami, durant lequel il voyage jusqu'au royaume des morts, avant de rendre son dernier souffle. Gilgamesh, effondré par la disparition de son fidèle compagnon, part à la recherche du secret de l'immortalité auprès de l'unique survivant du déluge, un grand sage et oniromancien célèbre. L'omniprésence des rêves dans l'épopée de Gilgamesh vient rendre compte de l'importance de la vie onirique dans l'existence des hommes et des femmes de cette époque en Mésopotamie. Les aventures de Gilgamesh sont également un précieux témoignage des considérations et des usages du rêve durant l'Antiquité que nous continuerons d'explorer dans la prochaine émission. Nous nous intéresserons en particulier au rituel de la mode d'argile afin d'en comprendre les mécanismes qui sont toujours au cœur de notre approche contemporaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux rêves!